Hop là, bonjour à tous, on a une petite conférence sur les figures du marbre. On essaye d'insister vraiment sur le marbre avec trois auteurs fantastiques, trois auteurs un peu bizarres. Ils nous racontent des histoires qui font peur, ils mettent en scène des micros et des tueurs. Donc on va pouvoir explorer un petit peu leur psychologie. On en a pour 28h30 à peu près. Et donc soyez là demain. De toute façon, on va fermer les portes, ce sera plus simple. Donc on va voir surtout comment est-ce que des écrivains s'emparent un peu des figures du mal et qu'est-ce que le mal véritablement. Autour de cette table qui n'existe pas, Sophie d'abord, avec on va évoquer notamment Le sang des chimères et puis Sainte-Marie-des-Ondes. On a Frédéric Zylinder, je ne suis pas planté, non, avec Wake the Dead. On voit mon accent anglais. Hein, et le deuxième, eh bien, j'ai mal écrit, donc j'arriverai pas, mais il est important. Et puis Jean-Luc Bizien, avec on va parler notamment de l'appel du dragon, éventuellement, c'est d'autopromo, mais je l'assure. Et puis on parlera aussi de l'évangile des ténèbres et toute la série. Et puis on verra qu'il y a un héros qui pourrait aussi flirter parfois un petit peu. Voilà. Donc on se fait un petit tour de table, on voit un petit peu vos personnages et comment est-ce que vous mettez les méchants et le mal en scène. Et puis après, j'ai des questions. Sophie, dans Le sang des chimères, tu as une héroïne qui a des pulsions de violence, qui s'apprête à sombrer un petit peu.
Elle n'a pas des pulsions de violence, elle a des envies de sang, de viande, de cannibalisme. Mais elle n'est pas violente, hein. Elle est très pacifiste à la base. Mm-hmm. Mais elle a juste des pulsions et effectivement elle se sent sombrer sous l'emprise d'un djinn, d'une djinnéya, et elle n'a aucune prise sur cette part déshumanisée d'elle-même.
Et qu'est-ce qui t'intéressait dans cette envie de cannibalisme? Est-ce que c'était la résistance ou travailler sur le basculement,
ouais. C'était vraiment le basculement et le sentiment. J'ai fait un peu comme j'envisage la dépression, comme une chute libre à laquelle on ne peut rien. Comme quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, on essaie de se rapprocher et on n'y arrive pas, on se sent glisser. Et c'est exactement ce que ressent Cyrine, elle se sent glisser vers le noir.
Et en même temps, tu l'as incarnée, ce mal public, elle est possédée ou sous l'emprise de...
D'une créature qui finalement n'est pas si méchante que ça, mais qui est inhumaine, dans tout ce que ça veut dire.
Jean-Luc, je voulais que tu nous parles, alors notamment de l'évangile des ténèbres, parce que là, le mal, il est un peu double dans le premier. On est en Corée du Nord, donc la dictature, le ministre ne fait pas, je le désingue à coup de missile. Très bien, et en plus, on a un tueur. Donc, double évocation, parlant du héros, peut-être après, double évocation maléfique pour toi.
Oui, alors au départ, je voulais essentiellement parler de ce pays kafkaïen, qui est la Corée du Nord, c'est-à-dire la dernière dictature de type staminien, le dernier pays à ma connaissance qui a des camps de concentration, et où une espèce de dynastie de fous furieux déifiée par une population qui est hélas décérébrée parce que formatée depuis la plus tendre enfance, règne depuis trois générations maintenant. Au départ, je voulais ça, et puis je ne savais pas trop comment aborder la question. Je suis passé par le filtre du thriller, parce qu'à mon sens, le thriller, ça permet aujourd'hui d'aborder les aberrations du monde contemporain. C'est le médium idéal. Le challenge, c'était de trouver une histoire policière dans le pays le plus fliqué du monde. Et je me suis basé sur une bonne vieille croyance occidentale. Pour en avoir parlé avec des copains du polar, jusque dans les années 90, on a été intimement persuadé que les serial killers n'existaient qu'aux États-Unis. Et que c'était donc un produit de l'ultralibéralisme, avant de comprendre qu'il y en avait en Chine, qu'il y en avait en Afrique, qu'il y en avait partout sur la planète. Sauf que seuls les États-Unis s'étaient dotés d'un appareil d'identification qui leur permettait de les coincer. Et très longtemps, donc, on s'est dit ça, donc il a fallu jouer sur ces codes-là. Donc dans un pays stalinien, imaginez qu'il y a un tueur en série, ça ne pouvait être qu'un agent infiltré, quelqu'un de l'extérieur. Ce qui m'intéresse, moi, dans la figure du mal, c'est que je n'aime pas mon héros, donc on pourra en parler après si tu veux, mais je n'aime pas les personnages en noir et blanc. J'aime pas les cow-boys blancs, les cow-boys noirs, les gentils et les méchants. ce qui m'obsède moi dans tous mes bouquins, que ce soit pour les adolescents ou les adultes, c'est que j'aime les personnages en niveau de vie comme ils sont dans la réalité. Et je crois que même le plus doux, le plus gentil des hommes est capable, sur notre colère, de se transformer en monstre. Parce qu'on a tous, à un moment donné, rêvé sur un coup de sang de tuer quelqu'un. Et heureusement, on a des barrières mentales, culturelles, sociétales qui nous empêchent de passer à l'acte. Et ce qui me fascine, alors on s'entend, la fascination, c'est pas une admiration de ces gens-là, mais je suis frappé de stupéfaction de voir qu'il y a des gens qui ont ouvert ces portes-là et qui vont plus que ce que tu as fait. Voilà.
Je voudrais revenir sur le pays, parce que c'est un peu comme dans l'Appel du Dragon, on a des souterrains, c'est-à-dire l'incarnation physique du mal dans un lieu, entre guillemets. C'est pour toi, en tant qu'écrivain, un décor idéal pour y passer une histoire.
Le souterrain ?
Ouais, le souterrain, ou même la Corée du Nord, que tu aurais pu faire ça en Bretagne, ça aurait eu une autre tonalité.
Il y aurait eu moins d'impact, je crois. On va reparler de part sombre à partir du moment où on est dans la part sombre et on va chercher profond cette part ténébreuse de la nature humaine. Oui, le décor s'y prête et c'est une allégorie. C'est on va creuser, on va aller profond et on va trouver ce qu'il y a de plus différent et repoussant dans la nature humaine.
Ce qui me permet d'en venir à toi, Fred, avec Wake the Dead, on a des zombies dans un lieu bien défini. Comment est-ce que tu l'as construit un petit peu, comment tu as construit cette ambiance-là et pourquoi ?
Alors, Wake the Dead se situe dans Massachusetts, qui est, la région favorite où se déroule la plupart des histoires de Lovecraft, donc qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est aussi le lieu où se trouve une ville qui s'appelle Salem et qui est très connue justement pour ces fameux procès de sorcières à la fin du XVIIe et qui est en fait le point de départ de mon histoire. C'est-à-dire que au-delà de l'histoire de zombies, c'est jamais que l'avènement d'une malédiction qui a été jetée par une sorcière qui a été pendue en 1692 à la même époque à Salem. C'est pour ça vraiment que ça se déroule là-bas. Je trouve qu'en plus, c'est la région où on trouve les traces occidentales les plus anciennes. Donc c'est là où on trouve effectivement les maisons les plus vieilles, les maisons les plus hantées, etc. Et puis je trouve que le décor, la nature là-bas se prête vraiment particulièrement à ce genre d'histoire. Les films d'horreur, les films angoisse qui se déroulent dans cette partie-là, alors pas forcément que dans le Massachusetts, mais vraiment dans le nord-est des États-Unis, des films comme par exemple le projet Blair Witch, cette région-là s'y prête davantage que la Californie, où on n'a pas les mêmes, la même vision du paysage.
Sophie, c'est pareil, tu fais attention à tes décors un petit peu hein.
Alors c'est difficile à dire parce que pour le sang des chimènes, j'ai voulu un décor spécifique. Je voulais que l'héroïne passe de Marseille à la Bretagne, deux lieux qui sont très importants pour moi parce que j'ai vécu, mais aussi la Bretagne parce que c'est un lieu empreint de passé, d'histoire, de légende, avec des sites que je connais qui sont très évocateurs, très mystérieux. Alors que dans la série Sainte-Marie-des-Ombres, j'ai voulu un univers plus symbolique et schématique. Aucune ville n'est nommée. C'est un environnement urbain, c'est un environnement un petit peu futuriste. Ça se déroule après l'arrivée des ombres, mais c'est l'environnement urbain anonyme. C'est la ville symbole de tous les dangers, de la nuit, un peu la ville incarnation du mal, où la ville est envahie par le mal. Donc ça pourrait se passer n'importe où, mais on a un paysage urbain un peu oppressant.
Est-ce que du coup ça permet de mettre encore plus en valeur ce qui arrive aux héros ou d'installer une terreur diffuse au-delà de l'histoire?
Pour moi, oui, ça permet d'installer une terreur diffuse en rendant la ville anonyme, donc vraiment indifférente à ce qui se passe aux humains, en opposition avec l'émotionnel, avec le ressenti. C'est la ville, l'ennemi en quelque sorte, ou l'incarnation du mal.
Dans sa première saison, tu l'as dit, il y a des ombres, alors là du coup, le mal s'incarne. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement?
Bon, je ne vais pas trop en dire parce que sinon je révèle tout, mais les ombres ne sont pas méchantes en soi, mais elles dévorent les humains. Les ombres sont devenues dévorantes. Le contact avec une ombre issue d'un être vivant, d'une plante, peut dévorer la chair, jusqu'à peut dévorer toute matière organique. Donc les gens vivent avec des lampes de poche sur eux, avec des chapeaux lumineux, avec des miroirs en permanence pour éviter de se retrouver pris au piège des ombres. Mais on découvre que finalement ces ombres ne sont pas si méchantes, elles sont au niveau de l'œil.
Oui, ça veut dire qu'elles ont quitté. On va pas tout révéler, mais il y a une raison.
Il y a une raison à leur existence, il y a une raison à leur arrivée, à leur naissance, et il y a une raison à leur disparition aussi par moment. Et l'héroïne va plonger au cœur des ombres, justement, pour comprendre son lien avec elles et leur existence.
Est-ce qu'il faut expliquer le mal? Jean-Luc, quand tu mets en scène un tueur, par exemple, faut-il une justification à l'horreur? Pas une justification, en tout cas une explication logique.
Mais je crois qu'on n'a pas d'explication logique. J'ai fait une série qui se passe à la fin du 19e siècle, à la naissance de la psychiatrie moderne, et j'ai eu la chance de bosser deux psychiatres qui acceptent de répondre à mes questions et m'expliquent des tas de choses. On n'a pas identifié, on ne sait pas d'où ça vient. Certains des pires tueurs en série d'histoire américaine n'ont pas eu une enfance malheureuse, n'ont pas été battus, n'ont pas été violés, n'ont pas... Ils ont juste été comme ça, et on n'a pas d'explication, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est un gène défaillant? Est-ce qu'on ne sait pas? Donc, c'est pas ça, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi, je pense que aussi que, en tout cas, la littérature, mais la littérature de nous, en fait, la littérature est faite pour qu'on s'interroge sur la vie, sur notre place les uns par rapport aux autres, et sur les possibles, sur ce qu'on aurait pu faire, sur la manière dont on aurait pu réagir devant une situation de rire. Donc je juge pas les raisons pour lesquelles ils sont là. Je dis simplement que le lecteur est suffisamment grand pour comprendre et pour lui juger et savoir. Je raconte des histoires avec des personnages qui sont ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que les lecteurs souvent projettent plus de choses. J'en ai mis dans les... Je vais juste vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, dans un salon, il y a une dame qui a lu la trilogie des ténèbres. Et elle a adoré les deux premiers. Elle arrive dans le troisième en disant « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui vous a pris ? Les 20 pages de torture sont abominables. Comment est-ce que vous avez pu faire un truc pareil ?» Je ne piche pas. Mais en fait, la scène, je lui dis « Est-ce que vous voulez, je vous la relise ?»« Ah ben non, c'est interminable, je ne supporterai pas. » La scène fait une deux pages. Je raconte simplement qu'un type qui, encore une fois, c'est les souterrains, il va descendre dans un souterrain de New York, il sait que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, et il va trouver une salle un peu abandonnée, humide, où il y a un pauvre type assis sur une chaise inconscient, il y a du sang par terre, et c'est tout ce que je dis. En revanche, je décris sur une table à côté une série d'outils qui ont dû servir à ça, et c'est tout ce que je dis. La dame s'était faite son film, donc elle avait projeté ses propres terreurs, et elle était intimement persuadée que j'en avais fait 20 pages. Donc le mal, il est là, il suffit de le mettre en scène sans forcément ni chercher à le condamner, ni chercher à le glorifier, mais laisser le lecteur s'approprier ça, et peut-être du coup réfléchir à ses sources et aux solutions qu'on peut lui opposer.
Fred, on va parler des zombies. Alors, le zombie, c'est la figure par excellence, hein. Il n'a pas de justification particulière, peut-être scientifique, mais on ne sait pas. Il mange tout sur son passage et on a du mal à le raisonner. Pourquoi avoir choisi justement cette figure-là?
Alors, cette figure-là, en fait, elle était intéressante parce qu'elle me permettait de punir une ville, ce qu'elle a fait dans le passé avec ses propres habitants décédés. Donc on se retrouve effectivement, alors on est plus dans la nécromancie liée à une malédiction qu'à du virus, comme c'est très à la mode ces dernières années. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle me permettait d'aborder aussi différents types de zombies. C'est-à-dire qu'on a des zombies, on va dire, propres, bien embaumés, qui sortent des cimetières. On a aussi du zombie beaucoup plus ancien, beaucoup plus effrayant, puisque c'est une région à tourbière où il y a pas mal de fosses communes qui datent de la guerre d'indépendance, donc avec des macabées plutôt momifiés, à la peau tannée, qui sortent et qui vont aussi venir croquer les vivants. Et puis on a les zombies tout frais et sanguignolants, qui sont les habitants qui seront décimés les uns après les autres, bien entendu, se relèvent. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir, on va dire, une espèce de nuancier zombiesque dans l'état, effectivement. Et je trouvais aussi assez intéressant, vraiment, ça parle de la malédiction d'une sorcière qui a été jugée par les habitants 300 ans plus tôt. Je trouvais intéressant de punir les descendants de ces habitants avec, en partie, ceux qui l'avaient condamné.
Ça pose la question des archétypes, en gros, hein, des grandes figures du bestiaire fantastique. Ça, c'est une question ouverte. Comment vous débrouillez avec ça? Comment est-ce que, quand tu mets en scène des zombies, tu te débrouilles avec la figure un peu tutélaire des zombies? Est-ce que tu t'en éloignes? Est-ce que, on va parler des loups-garous, etc. Comment est-ce que vous faites en tant qu'auteur sur ces figures classiques?
Je pense qu'il faut, s'en emparer en respectant quand même un minimum de code. Sans pour autant que ces codes soient un carcan. Et ne pas hésiter à s'en éloigner, sans pour autant le dénaturer. Donc tu parlais du loup-garou par exemple. Le loup-garou qui revient tous les 28 jours, il se transforme à la pleine lune. Moi, très souvent, mes loups-garous, ils se transforment sur 2-3 jours. Voilà, puisqu'il y a un appel très puissant de la lune. Après, c'est un peu personnel, c'est que j'ai toujours eu l'impression que la pleine lune, c'était pas qu'une journée, qu'une nuit. Parce que la lune, elle est bien grasse quand même un jour avant, et elle est encore bien grasse un jour après. Quoi. Donc, je trouvais assez intéressant de me dire pourquoi est-ce qu'il répondrait, le monstre dans l'humain répondrait à l'appel de la lune avec une seule nuit, par exemple. Voilà.
Jean-Luc et Loup-garou.
Oui, mais il y a des enfants.
Ah oui.
Il y a des enfants, ça va être compliqué. Je vais le dire assez rapidement, les miens, ils sont loup-garou tout le temps. Et ils sont sodomiques. Je vais le dire rapidement. Alors, je vous explique pourquoi. Tout ça, c'est un mec qui est réfléchi. Il faut ça. Je me suis renseigné sur les animaux, parce qu'il faut jouer. C'est un animal, le loup-garou. Alors, il faut savoir que les deux chiens, par exemple, qui se bouffent la gueule dans la rue, vous n'avez peut-être pas assisté au spectacle, mais le vainqueur, rapidement, mais hop, une petite cartouche à l'autre, parce que ces abrutis n'ont aucune mémoire visuelle, mais ils ont une mémoire olfactive. Et c'est ce qui sauve l'espèce. Si jamais ils se croisent 6 mois plus tard et qu'ils risquent de s'entretuer, celui qui a pris sa petite cartouche se rappelle que, ah non, finalement, pas celui-là, il pique un peu. Si, bah oui, mais donc voilà, c'est, je me suis renseigné, mon vieux, c'est un métier. Pardon pour la parenthèse. J'organise des stages. Et les loups, c'est la même chose. Si on regarde bien, les loups, il y a le mâle et la femelle alpha, et c'est très souvent que même la femelle alpha grimpe sur toute la meute pour bien leur faire comprendre que c'est elle qui dirige. Donc je suis parti du principe que chez les loups-garous, qui étaient quand même en haut du truc, si tu combattais même à point nu, fallait pas perdre. Quoi. C'est tout. Je trouve ça rigolo. En fait, l'idée, c'est de bousculer les codes, et c'est de se rappeler que tout ça, c'est encore quand même un peu pour rire, que ce sont effectivement des archétypes, et que, en tout cas dans la littérature, adultes, on pouvait rigoler. Pour ce qui est des ados, par exemple, dans l'appel du dragon, la figure du mal, je l'ai traité de façon extrêmement classique et occidentale. Le dragon, à 90% dans notre panthéon, c'est une créature maléfique. Contrairement à l'Asie, je me suis fait un peu violence là-dessus. Parce que l'Asie, c'est le contraire, il y a très peu de dragons maléfiques. Ils sont généralement plutôt bienveillants et plutôt là pour nous aider, nous protéger et produire quelques miracles. Voilà. Et c'est seulement vraiment sur ces cas.
On peut parler de la sexualité des dragons, mais peut-être une autre fois, c'est compliqué. Sophie, toi, comment tu te débrouilles avec ces archétypes, justement, fantastiques?
Alors, dans le sang des chimères, j'ai pioché dans les mythologies un peu du monde entier pour trouver des figures qui m'évoquaient, qui pouvaient être en lien avec mes personnages et qui m'évoquaient des choses. Mais j'ai utilisé vraiment cette littérature pour adolescents aussi. Je suis restée dans les figures classiques que j'ai empruntées, en fait, vraiment. Alors que dans Sainte-Marie des Ombres, je me suis vraiment appropriée les ombres, qui ne sont pas des créatures classiques, qui sont un peu le reflet de l'humanité. Et je me suis amusée avec elles, en fait. J'ai joué avec le mal.
Est-ce qu'il y a une forme de jubilation quand on est auteur à mettre en scène le mal, l'horreur, l'affreux, le pas bien, quoi.
C'est jouissif quand même de faire mal à ses héros.
Ok.
Voilà. J'assume, j'aime faire mal à mes héros.
D'accord, très bien. Fred, pour lui, est-ce que c'est jouissif de travailler avec tout ça?
Oh oui, oui, effectivement. Mais moi, dans mes histoires, ces figures du mal, en fait, très souvent, elles sont plutôt secondaires. C'est-à-dire qu'elles me permettent, au contraire, de mettre en valeur la monstruosité de l'être humain. Effectivement, elle n'est qu'un prétexte. Quand vous balancez une horde de zombies sur une ville, c'est un peu comme quand il y a des émeutes de la faim, quoi. L'humain est capable du meilleur comme du pire, et malheureusement plus souvent du pire que du meilleur. Donc, et comme, comme disait Jean-Luc ou Sophie, on est plutôt tout en niveau de gris. Donc il n'y a pas de personnage qui soit le cavalier blanc et d'autres qui soient le chevalier noir. C'est-à-dire qu'on a tous une part d'ombre qui est parfois plus importante chez certains individus que chez d'autres. Et effectivement, ces monstres, ces figures du mal, elles permettent de mettre ces personnages qui à un moment sont un petit peu comme le yin et le yang en situation et voir de quel côté ils vont basculer. Simplement.
Alors, moi, j'ai aucune jubilation à mettre en scène le mal. En fait, ce qui me porte, moi, dans la vie au quotidien, c'est une recherche obsessionnelle, non pas de la part des ténèbres, mais de la lumière. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui, l'âge venant, que comme il y a une part d'ombre chez le plus gentil, le plus doux des hommes, il doit pouvoir y avoir encore un peu de lumière chez la pire des crapules. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner pour autant, c'est pas ça. Mais qu'il faut essayer de chercher le truc. Quoi. Et en fait, dans mes bouquins, ça n'est que ça. Ça n'est que recherchons un peu de lumière. Même dans le dernier essai, lorsque j'écris Crotal, il n'y en a pas un pour sauver les autres. Et en même temps, à la fin, il y a quand même un petit peu de soleil. C'est ça le truc, c'est que toutes ces figures-là, elles sont autant de jalons sur un parcours initiatique qui va nous permettre de... Voilà. Alors attention, je ne suis pas philosophe du troisième millénaire non plus, mais voilà, c'est ce qui en tout cas moi me porte. Et la véritable jubilation, elle est dans cette espèce de jeu d'ombre à trouver, comme les chats, tu sais. Ouais. Ils ne voient pas dans le noir, mais ils savent exploiter la moindre source de lumière. Et ça, c'est...
En gros, le mal comme révélateur.
Exactement, c'est ça. Ils font un pendant, c'est le miroir. C'est l'autre côté du miroir qui permet de bien sentir.
Est-ce que vous êtes d'accord, Sophie et Fred?
Pour ma part, je suis entièrement d'accord. Le mal sert à mettre en évidence l'humanité dans ce qu'il peut avoir de pire comme de meilleur. Et elle sert de révélateur, effectivement. Prenons le personnage, mettons-le dans une situation bien pourrie. Et voyons ce qu'il peut en tirer de pire comme de meilleur.
C'est un avis qui est totalement partagé.
Moi j'ai une question. Oui, vas-y.
Tu sais, en fait, c'est immémorial quand on a pris le temps de lire les véritables versions des contes qui sont abominables. Et qu'on est capable de projeter encore aujourd'hui au quotidien des choses, des raisons. Au départ, c'est juste la peur de l'extérieur. C'est mettre les enfants en garde des dangers de l'extérieur et des menaces qu'il peut y avoir dans la vie. Et aujourd'hui, on arrive à faire de nouvelles lectures parce que cette fonction-là, elle a toujours été là. C'est tout le monde n'est pas gentil. Donc fais attention, soit un peu plus malin, soit un peu plus attentif, et tu vas passer à travers ça.
Les contes de Perrault, notamment, sont assez intenses. Une petite question, alors là c'est sur la fabrique de l'écrivain. On est dans quel état d'esprit quand on écrit le pire, hein? Une petite scène de torture ou d'horreur, est-ce que le soleil brille, on a un peu de musique, ça roule, ou au contraire, il faut une ambiance propice, avec plein de guillemets, hein, à ça. Ouais, bien sûr. T'es dans quel état toi quand tu fais une scène particulièrement difficile?
Je m'éclate. J'ai envie de le dire, mais je m'éclate. Mais par contre, là où ça devient difficile, c'est à la relecture. Quand il y a la direction éditoriale ou quand il y a la phase de correction et que je dois relire ce que j'ai écrit, je modifie moi-même en disant c'est pas possible, j'ai écrit ça, mais c'est horrible. Même si les choses ne sont pas forcément décrites, l'ambiance et puis certains mots, je me dis mais c'est atroce, comment je suis capable d'imaginer ça moi? Alors que je suis un bisounours, mais un bisounours qui, quand je suis en mode d'écriture, j'écris des choses vraiment atroces. Et je m'horrifie moi-même quand je les relis. Voilà. Je peux être coupable.
Fred ?
Moi, je ne me mets pas spécialement dans une ambiance particulière parce que j'écris des scènes qui peuvent être horribles ou terrifiantes. J'écris de façon en musique, peu importe. J'écoute, comme j'écoute toujours le même album, souvent en boucle, donc c'est les mêmes chansons qui reviennent quand j'écris, quand je fais le lien entre le chapitre, quand j'écris une scène un peu gore ou un peu horrible. Mais effectivement, c'est plus, comme dit Sophie, après. Quand on a, c'est pas facile d'avoir du recul sur ce qu'on écrit soi-même, et quand on a un retour, soit par la suite de lecteurs qu'ils ont lu, ou effectivement de l'éditeur, quand on est dans la phase, dans le processus éditorial et des corrections, où les gens nous demandent mais comment tu peux écrire des trucs pareils, quoi. Ma mère ne comprend toujours pas pourquoi j'écris des trucs pareils.
Pauvre maman.
Ma mère a plutôt été choquée par les scènes de sexe, en fait.
Oui, aussi. Alors moi, à contrario, j'ai un point commun avec Fred, j'écris en musique, mais j'ai mon petit, puisqu'on parle copote, j'ai mon petit rituel, c'est que tous les matins, j'ai besoin d'un premier mug de café pour me réveiller, et d'un deuxième pour me concentrer. C'est au moment du deuxième que je rentre dans le bureau, où j'ai tous mes bouquins et tous mes CD. En fait, je me fais mon programme musical de la journée. Je choisis les disques, et ça peut, c'est pas forcément les musiques de films qui se signent cela, mais je choisis le tempo qui va me porter sur telle ou telle séquence. Et j'essaye le plus possible d'écrire le bouquin que j'aurais envie de lire. Donc je pars du principe que si je me fais pas peur, si je me fais pas rire ou si je ne crée pas d'émotion, j'ai peu de chance de la communiquer à mon lecteur. Donc j'ai peut-être. J'ai pas cette découverte de mon Dieu comment j'ai pu écrire une horreur. J'en avais parfaitement conscience au moment de le faire. Je suis par contre critique sur la technique. Mais l'émotion en tout cas elle était là. C'est-à-dire que quand je raconte une scène de mal absolu, j'ai effectivement les jetons ou je suis effectivement retourné. Mais sinon ça fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça reste que des techniques.
Je tiens à mettre une précision sur ce que j'ai dit. Je le ressens quand j'écris. Je le ressens, je suis vraiment dedans. Quand j'écris une scène, en fait, j'essaie d'être très cinématographique. Et je suis plongée dedans quand je l'écris. Mais je suis tellement dedans que je n'ai pas d'objectif extérieur dessus. C'est lorsque je relis ou je m'intéresse vraiment au texte, à corriger, à faire attention au style, où là, ça me frappe de plein fouet et ça me surprend. Mais je suis vraiment dedans de ressentir les émotions quand je l'écris. Mais je suis plus à la place du héros, presque. Mais par contre, je ne sais pas comment vous faites, messieurs, mais moi, j'arrive pas à écrire en musique. J'écris dans mon bureau, avec du silence, et quand mon mari met de la musique, parce qu'il travaille dans la même pièce que moi, ça tend à me déranger, en fait. D'ailleurs, ça me dérange parce qu'il est aussi au téléphone.
Est-ce qu'il y a des limites quand on écrit le pire ? Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez ?
Oui, bien. Pour moi, c'est assez évident, oui, il y a des choses que je ne peux pas écrire. Mais je fais confiance à mon lecteur, puisqu'il se fout les jetons tout seul. Donc ça, c'est très très bien. Alors bizarrement, c'est une technique que j'ai appris de la littérature générale. C'est en corrigeant Marie Jolie chez Sabine Vespizer, donc en littérature blanche, qu'elle m'a dit un jour que tu ne fais pas assez confiance à ton lecteur. Et du coup, j'ai appliqué ça de plus en plus. La seule limite que je me pose, que ce soit pour les adolescents ou pour les adultes, c'est qu'une scène de violence ou une scène mettant en avant le mal ne doit jamais ni être gratuite, mais toujours au service du récit, ni complaisante. Voilà. J'ai pas besoin de. Ouais, ça vaut pour les scènes de sexe. Mais j'ai pas besoin de repeindre en termes de refaire le crépi avec la cervelle des victimes. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la fulgurance, les sentiments de sentir. Et puis voilà. Et ça n'est que parce que c'est nécessaire au récit que je vais l'écrire. Sinon, il suffit d'un bon compte-rendu de la cellule de police locale et voilà, et en trois lignes, c'est marché. Ça n'a, à mon sens, aucun intérêt. Alors j'ai des petits camarades, ne serait-ce qu'au sein de la ligue, qui eux prennent un malin plaisir à en faire des pièces. Il y a deux écoles et je comprends parfaitement ça. C'est une autre façon de raconter des histoires. Moi, je pars du principe que cette partie-là du récit, le mal absolu, si c'est pas au service du récit, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie.
Moi, j'aime bien faire les deux, en fait. Il faut que ça serve le livre, et suivant l'émotion que je me suis citée, suivant l'ambiance du livre, suivant son contenu, je ne traiterai pas la scène de la même façon. Il y a des fois où j'aurais plus besoin de la suggérer pour laisser le lecteur se faire peur lui-même. Et suivant le roman, si j'essaie plus de faire du Tarantino, là je décrirai et j'en rajouterai des couches d'hémoglobine, mais ça ne sera pas le même but. Et ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, je n'ai pas de règle à proprement parler là-dessus, c'est vraiment par rapport au ressenti, à ce que je veux transmettre.
Moi je rejoins Jean-Luc, effectivement, les scènes un peu violentes ou horribles, doivent vraiment servir le récit. J'aime pas la violence gratuite, le gore gratuit. Si la scène sert le récit et qu'elle doit être gore, elle le sera. Mais on ne va pas en distiller toutes les deux pages, histoire de rebuter le lecteur. Et puis en plus, pour revenir sur ce qu'on me disait en termes de ressenti personnel ou pas, je rejoins aussi, encore une fois, Jean-Luc, sur ce que tu disais par rapport à ta scène de torture. La scène de torture qui n'existe pas en plus. C'est que la sensibilité du lecteur y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on va écrire des choses qui vont nous sembler horribles et qui ne vont, vont pas du tout paraître horribles au lecteur lambda. On va écrire des petits passages qui vont servir de récit sans forcément chercher à faire peur, et puis on va avoir des retours de lecteurs qui vont nous dire qu'ils ont été terrorisés. Donc c'est pas évident, c'est pour ça que la barrière que tu fixes toi, moi j'écris sans vraiment y penser. J'ai jamais été confronté à un moment, à un moment donné, à me dire « bon, est-ce que j'écris cette scène ou pas ?» Mais effectivement, des fois tu écris des trucs et tu te rends compte que le retour que tu as du lecteur, c'est pas du tout ce que tu avais. Et je me rappelle une fois, un des tout premiers salons que j'ai fait, où un gars s'arrête sur mon stand, j'avais mes bouquins auto-édités, et il me dit « est-ce que ça fait peur ?» Je sais pas, quoi. Moi quand j'écris avec maîtrise, je me rends pas vraiment compte. Et je dis, qu'est-ce que vous a pu vous faire peur? Et le gars il me dit, le dernier livre qui m'a fait peur, c'est Guide de survie en territoire zombie. Bon, quand tu as lu le bouquin, tu te rends compte que c'est absolument pas effrayant, enfin, c'est plutôt comique. Le mec il disait qu'il avait eu un bouquin d'horreur. Voilà. C'est vraiment une question de ressenti.
Non, mais c'est parce qu'il m'a fait sourire, parce que écrire des histoires de zombies avec ses tripes, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Non, on va rendre à César ce qui appartient à César. La technique de... En fait, Chatham qui m'a filé le truc. Max, il a des millions de Blu-ray chez lui, et il analyse les séquences en technique narrative. Et donc, il m'avait filé un ou deux films, et du coup, on s'est mis à régulièrement s'échanger des trucs. Et je rebondis sur ce que Sophie disait sur Tarantino. En fait, cette fameuse scène d'horreur, j'ai piqué à Tarantino. Enfin, en tout cas, la technique narrative. Tu sais, c'est Rodriguez qui a fait le film Une nuit en enfer. Ce qu'il y a de rigolo dans Une nuit en enfer, c'est que ce qui est inquiétant, c'est la première partie du film, qu'il faut vraiment le jeter. Et qu'après, une fois qu'il y a du vampire partout, des tripes partout, du sang sur tous les murs, ça fait plutôt rigoler qu'autre chose. C'est tellement outrancier, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement c'est le l'Euro Disney du gore. En revanche, la scène dont je me suis inspiré pour faire cette scène de torture, c'est la fameuse scène où Tarantino reste seul avec l'otage pendant que Clooney quitte l'hôtel. Et quand il revient, si vous vous rappelez de cette scène, il y a 3 demi-secondes où on voit du sang sur le plafond, sur les murs, et de mémoire, Tarantino, il a du sang, je sais plus si c'est sur le verre de lunette ou sur la joue. Et quand l'autre lui dit « qu'est-ce que tu as fait ?», il dit « mais son attitude a radicalement changé à la seconde où tu as quitté la chambre. » Et là, on projette tout ce qui nous fait peur. Et ça fonctionne, donc c'est vraiment une technique narrative. Je me suis dit « il y a peut-être un truc qui a fait un là-dessus. » En revanche, après, quand il s'amuse à massacrer du vampire et à faire connaître qu'il bouge, je pense que ça, on l'a déjà vu une fois, il va jouer avec les codes, il va s'amuser, il va plutôt nous faire rire avec ce qu'il devrait nous horrifier.
En gros, ne pas toujours montrer, et parfois la méthode est plus efficace. Tu es d'accord avec ça, Sophie ?
Complètement.
Est-ce qu'on arrive au bout ? Est-ce que vous avez des petites questions à poser aux auteurs ? Parfois ?
On aura fait peur.
Ah ouais, peut-être. Un livre, un personnage qui nous a fait peur ? Finir ?
dans Buffy, un épisode de Buffy, l'épisode muet, il y a les gentlemen qui ne parlent pas, qui sont des grands messieurs un peu cadavériques en costume, mais ils ne parlent pas. Ils ne poussent pas des grands cris, ils ne courent pas après les gens, ils ont juste un sourire plein de dents. Et les héros ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent même pas exprimer leur peur. Et cet épisode m'a fait faire des cauchemars.
Et toi, Fred ?
Tout à l'heure, je parlais du projet Blair Witch, qui est un film qu'à l'époque, j'ai trouvé particulièrement flippant, parce que la figure du mal, tu la vois jamais. Tout est suggéré. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont terrorisés, on ne sait pas par quoi. Bon, mais on la voit jamais. On voit juste les gens en train de flipper, ça nous fait flipper. Parce que même les personnages qui meurent les uns après les autres, on ne voit pas vraiment comment ils meurent. Parce que comme tout est filmé au caméscope, ils se filment eux-mêmes. Donc c'est vraiment... c'est tout dans la suggestion, et j'avais trouvé ça bien flippant quand même.
On pourrait dire pareil dans le premier Alien, on voit très peu la créature. Tout est dans l'ambiance, dans le Nostromo qui est un vieux vaisseau un peu abîmé, un peu cabossé, avec des tunnels, on retrouve les souterrains, et des lumières très sombres, et on voit les personnages avoir peur. On sait qu'il se passe quelque chose de bien, mais on voit très peu la créature en fait, c'est plus suggéré.
Comme les Charlots contre Dracula, je crois. C'est exactement ça, j'avais parlé du premier Alien qui est magnifique, c'est vraiment une référence absolue parce que à partir du moment où la créature elle est identifiée, elle fait moins peur. C'est quand on la devine, à peine qu'elle est terrifiante. Non, moi alors le film qui m'a récemment pas fait peur mais vraiment dérangé, c'est un film coréen, c'est J'ai rencontré le diable. Je sais pas si vous avez vu ce film, c'est monumental. C'est l'histoire d'un type des services spéciaux qui est en mission. Sa femme est massacrée par un serial killer qui en laisse des bouts dans la rivière. Il les trouve en revenant en mission. Et au bout d'un quart d'heure de film, il a identifié le gars et il l'a mis en prison. Enfin, il le met pas en prison, mais il sait qui c'est. Fin du film. Sauf que ça démarre, c'est bon. Et il le laisse en liberté et à chaque fois que le gars va tenter un truc, le gentil va arriver et va le massacrer. Et en fait, on s'aperçoit que le diable dans le film, c'est pas le tueur en série. C'est super inquiétant, c'est encore rien.
Bon, très bien. Merci à nos auteurs, merci à vous de les avoir écoutés. Bon après-midi.